Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Magistère de l'Église et nous reprenons le cours de la joie de l'amour, exhortation apostolique à Maurice Laetitia du pape François. Et nous en sommes plutôt vers la fin, chapitre 8, qui s'intitule « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Et à l'intérieur de ce chapitre 8, nous avons commencé le sous-chapitre « La logique de la miséricorde pastorale ». Il est providentiel que toutes ces réflexions aient lieu dans le contexte d'une année jubilaire consacrée à la miséricorde, car face également aux diverses situations qui affectent la famille, l'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. L'épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous, sans exclure personne. Elle sait bien que Jésus lui-même se présente comme le pasteur de 100 brebis, non pas de 99. Il les veut toutes. Si on est conscient de cela, il sera possible qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. Nous ne pouvons pas oublier que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde. Il ne s'agit pas d'une offre romantique ou d'une réponse faible face à l'amour de Dieu, qui veut toujours promouvoir les personnes, car la miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. Certes, parfois nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce, et non comme des facilitateurs. Mais l'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. L'enseignement de la théologie morale ne devrait pas cesser d'intégrer ces considérations, parce que s'il est vrai qu'il faut préserver l'intégralité de l'enseignement moral de l'Église, on doit toujours mettre un soin particulier à souligner et à encourager les valeurs les plus hautes et centrales de l'Évangile, et surtout la primauté de la charité comme réponse à l'initiative gratuite de l'amour de Dieu. Parfois, il nous coûte beaucoup de faire place à l'amour inconditionnel de Dieu dans la pastorale. Nous posons tant de conditions à la miséricorde que nous la vidons de son sens concret et de sa signification réelle, et c'est la pire façon de liquéfier l'Évangile. Sans doute, par exemple, la miséricorde n'exclut pas la justice et la vérité. Mais avant tout, nous devons dire que la miséricorde est la plénitude de la justice et la manifestation la plus lumineuse de la vérité de Dieu. C'est pourquoi il convient toujours de considérer que toutes les notions théologiques, qui en définitive remettent en question la toute-puissance de Dieu, et en particulier sa miséricorde, sont inadéquates. Cela nous offre un cadre et un climat qui nous empêche de développer une morale bureaucratique froide en parlant des thèmes les plus délicats, et nous situe plutôt dans le contexte d'un discernement pastoral empreint d'amour miséricordieux qui tend toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre et surtout à intégrer. C'est la logique qui doit prédominer dans l'Église, pour faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes. J'invite les fidèles qui vivent des situations compliquées à s'approcher avec confiance de leur pasteur ou d'autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s'entretenir avec eux. Ils ne trouveront pas toujours en eux la confirmation de leurs propres idées ou désirs, mais sûrement ils recevront une lumière qui leur permettra de mieux saisir ce qui leur arrive et pourront découvrir un chemin de maturation personnelle. et j'invite les pasteurs à écouter avec affection et sérénité, avec le désir sincère d'entrer dans le cœur du drame des personnes et de comprendre leur point de vue pour les aider à mieux vivre et à reconnaître leur place dans l'Église. Nous abordons maintenant le neuvième et dernier chapitre de cette exhortation apostolique à Maurice Laetitia du pape François. Et ce chapitre concerne cette fois-ci la spiritualité matrimoniale et familiale. La charité présente des nuances différentes selon l'état de vie auquel chacun a été appelé. Il y a quelques décennies, lorsque le Concile Vatican II se référait à l'apostolat des laïcs, il soulignait la spiritualité qui jaillit de la vie familiale. Il affirmait que la spiritualité des laïcs doit revêtir des caractéristiques particulières suivant les conditions de vie de chacun, y compris l'état de vie conjugal et familial, et que les préoccupations familiales ne doivent pas être étrangères à leur style de vie spirituel. Donc il importe de nous arrêter brièvement à décrire certaines notes fondamentales de cette spiritualité spécifique qui se déploie dans le dynamisme des relations de la vie familiale. Spiritualité de la communion surnaturelle. Nous avons toujours parlé de l'inhabitation divine dans le cœur de la personne qui vit dans sa grâce. Aujourd'hui, nous pouvons dire également que la Trinité est présente dans le temple de la communion matrimoniale. Tout comme elle habite dans les louanges de son peuple, elle vit intimement dans l'amour matrimonial qui lui rend gloire. La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. Lorsqu'on vit en famille, il est difficile d'y feindre et d'y mentir. Nous ne pouvons pas porter un masque. Si l'amour anime cette authenticité, le Seigneur y règne avec sa joie et sa paix. La spiritualité de l'amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons et de rencontres qui font mûrir la communion, Dieu établit sa demeure. Ce don de soi associe à la fois l'humain et le divin, car il est plein de l'amour de Dieu. En définitive, la spiritualité matrimoniale est la spiritualité du lien habité par l'amour divin. Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de croissance mystique, un moyen de l'union intime avec Dieu. En effet, les exigences fraternelles et communautaires de la vie en famille sont une occasion pour ouvrir de plus en plus le cœur, et cela rend possible une rencontre toujours plus pleine avec le Seigneur. La parole de Dieu dit que celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il demeure dans la mort, et il n'a pas connu Dieu. Mon prédécesseur, Benoît XVI, a dit que fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant Dieu, et que l'amour est au fond l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. C'est seulement si nous nous aimons les uns les autres que Dieu demeure en nous, qu'en nous son amour est accompli. Puisque la personne humaine a dans sa structure naturelle une dimension sociale, et que l'expression première et originelle de la dimension sociale de la personne, c'est le couple et la famille, la spiritualité se concrétise dans la communion familiale. Donc, ceux qui sont animés de profonds désirs de spiritualité ne doivent pas croire que la famille les éloigne de la croissance dans la vie de l'esprit, mais qu'elle constitue un chemin que le Seigneur choisit pour les conduire au sommet de l'union mystique. ensemble en prière à la lumière de Pâques. Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vécues en communion avec la croix du Seigneur, et l'embrasser permet d'affronter les pires moments. Dans les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui peut aider à éviter une rupture. Les familles atteignent peu à peu, avec la grâce de l'Esprit-Saint, leur sainteté à travers la vie conjugale, en participant ainsi au mystère de la croix du Christ, qui transforme les difficultés et les souffrances en offrandes d'amour. D'autre part, les moments de joie, le repos ou la fête, et même la sexualité, sont vécus comme une participation à la vie pleine de sa résurrection. Les conjoints constituent par divers gestes quotidiens ce lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi pascale. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d'être uni devant le Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu'un qui traverse un moment difficile, afin de demander de l'aide pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son manteau de mère. Par des mots simples, ce moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété populaire sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles. Le chemin communautaire de prière atteint son point culminant dans la participation à l'Eucharistie ensemble, surtout lors du repos dominical. Jésus frappe à la porte de la famille pour partager avec elle la scène eucharistique. Les époux peuvent toujours y sceller de nouveau l'alliance pascale qui les a unis et qui reflète l'alliance que Dieu a scellée avec l'humanité à travers la croix. L'Eucharistie est le sacrement de la Nouvelle Alliance où est actualisée l'action rédemptrice du Christ. Ainsi, on se rend compte des liens intimes existants entre la vie matrimoniale et l'Eucharistie. La nourriture de l'Eucharistie est une force et un encouragement pour vivre chaque jour l'alliance matrimoniale comme église domestique. Spiritualité de l'amour exclusif et libre. Dans le mariage, on vit également le sens de l'appartenance complète à une seule personne. Les époux assument ce défi et le désir de vieillir et de se consumer ensemble, et ainsi ils reflètent la fidélité de Dieu. Cette ferme décision, qui caractérise un style de vie, est une exigence intérieure du pacte d'amour conjugal, car il est difficile que celui qui ne décide pas d'aimer pour toujours puisse aimer vraiment pour un seul jour. Mais cela n'aurait pas de sens spirituel s'il s'agissait uniquement d'une loi vécue avec résignation. C'est une appartenance du cœur, où Dieu seul voit. Chaque jour, en se réveillant, on renouvelle devant Dieu cette décision de fidélité, quoi qu'il arrive, tout au long de la journée. Et chacun, lorsqu'il va dormir, espère se réveiller pour continuer cette aventure, en se recommandant à l'aide du Seigneur. Ainsi, chaque conjoint est pour l'autre un signe et un instrument de la proximité du Seigneur qui ne nous laisse pas seuls. Et voici que je suis avec vous, pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Il y a un point où l'amour des conjoints atteint sa plus grande libération et devient un lieu d'autonomie saine, lorsque chacun découvre que l'autre n'est pas sien, mais qu'il a un maître beaucoup plus important, son unique Seigneur. Personne ne peut plus vouloir prendre possession de l'intimité plus personnelle et secrète de l'être aimé, et seul le Seigneur peut occuper le centre de sa vie. En même temps, le principe de réalisme spirituel fait que le conjoint ne veut plus que l'autre satisfasse complètement ses besoins. Il faut que le cheminement spirituel de chacun, comme l'indiquait si bien Dietrich Bonhoeffer, l'aide à se défaire de ses illusions sur l'autre, à cesser d'attendre de cette personne ce qui est uniquement propre à l'amour de Dieu. Cela exige un dépouillement intérieur. L'espace exclusif que chacun des conjoints réserve à ses relations dans la solitude avec Dieu permet non seulement de guérir des blessures de la cohabitation, mais aussi permet de trouver dans l'amour de Dieu le sens de sa propre existence. Nous avons besoin d'invoquer chaque jour l'action de l'Esprit pour que cette liberté intérieure soit possible. Spiritualité de l'attention, de la consolation et de l'encouragement. Les époux chrétiens sont l'un pour l'autre, pour leurs enfants et les autres membres de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les témoins de la foi. Dieu les appelle à procréer et à protéger. C'est pourquoi la famille est depuis toujours l'hôpital le plus proche. Prenons soin les uns des autres, soutenons-nous, et encourageons-nous les uns les autres, et vivons tout cela comme faisant partie de notre spiritualité familiale. La vie en couple est une participation à l'œuvre féconde de Dieu, et chacun est pour l'autre une provocation permanente de l'Esprit. L'amour de Dieu trouve une expression significative dans l'alliance nuptiale réalisée entre l'homme et la femme. Ainsi, les deux sont entre eux reflet de l'amour divin qui console par la parole, le regard, l'aide, la caresse, par l'étreinte. Voilà pourquoi vouloir fonder une famille, c'est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d'un monde où personne ne se sentira seul. Toute la vie de la famille est un mené-paître miséricordieux. Chacun, avec soin, peint et écrit dans la vie de l'autre. Notre lettre, c'est vous, une lettre écrite en nos cœurs, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Chacun est un pêcheur d'hommes qui, au nom de Jésus, jette les filets dans les autres, ou un laboureur qui travaille cette terre fraîche que sont ses proches, en stimulant le meilleur en eux. La fécondité matrimoniale implique de promouvoir, car aimer un être, c'est attendre de lui quelque chose d'imprévisible. C'est en même temps lui donner en quelque façon le moyen de répondre à cette attente. Il s'agit d'un culte à Dieu, parce que c'est lui qui a semé de nombreuses bonnes choses dans les autres, en espérant que nous les fassions grandir. C'est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Cela demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa dignité. On peut être pleinement présent à l'autre si l'on se donne, sans justification, en oubliant tout ce qu'il y a autour de soi. Ainsi, l'être aimé mérite toute l'attention. Jésus était un modèle, car lorsqu'une personne s'approchait pour parler avec lui, il arrêtait son regard, il regardait avec amour. Personne ne se sentait négligé en sa présence, puisque ses paroles et ses gestes étaient l'expression de cette question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cela est vécu dans la vie quotidienne de la famille. Là, nous nous souvenons que cette personne vivant avec nous mérite tout, puisqu'elle possède une dignité infinie, parce qu'elle est objet de l'amour immense du Père. Ainsi jaillit la tendresse, capable de susciter en l'autre la joie de se sentir aimé. Elle s'exprime en particulier en se tournant avec attention et délicatesse vers l'autre dans ses limites, spécialement quand elles apparaissent de façon évidente. Sous l'impulsion de l'esprit, le cercle familial non seulement accueille la vie en la procréant dans son propre sein, mais il s'ouvre, sort de soi pour répandre son bien sur d'autres, pour les protéger et chercher leur bonheur. Cette ouverture se révèle surtout dans l'hospitalité, encouragée par la parole de Dieu d'une manière suggestive. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent les anges. Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres et les abandonnés, elle est symbole, témoignage, participation de la maternité de l'Église. L'amour social, reflet de la Trinité, est en réalité ce qui unifie le sens spirituel de la famille et sa mission extérieure, car elle rend présent le kérigme avec toutes ses exigences communautaires. La famille vit sa spiritualité en étant en même temps une église domestique et une cellule vitale pour transformer le monde. Les paroles du Maître et celles de saint Paul sur le mariage sont insérées, et ce n'est pas un hasard, dans l'ultime et définitive dimension de notre existence que nous avons besoin de revaloriser. Ainsi, les mariages pourront reconnaître le sens du chemin qu'ils parcourent. En effet, comme nous l'avons rappelé plusieurs fois dans cette exhortation, aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Il y a un appel constant qui vient de la communion pleine de la Trinité, de la merveilleuse union entre le Christ et son Église, de cette communauté si belle qu'est la famille de Nazareth, et de la fraternité sans tache qui existe entre les saints du ciel. Et en outre, contempler la plénitude que nous n'avons pas encore atteinte nous permet de relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que famille, pour cesser d'exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger durement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. Cette exhortation apostolique à Maurice Laetitia arrive à sa fin, se termine avec cette prière que nous a laissée le pape François dans son encyclique, cette prière à la Sainte Famille. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, à l'occasion du jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le 19 mars, solennité de Saint-Joseph de l'an 2016, le quatrième de mon pontificat. Pape François. Voilà, chers amis, auditeurs, auditrices, ce magistère de l'Église se termine aujourd'hui et il se termine aussi sur la fin de cette exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour du pape François. Et je vous retrouve donc lundi prochain, même heure à 17h, et cette fois, nous changeons d'ouvrage, bien entendu. Voilà, restez à l'écoute de Radio Maria.